d'introduire Francis Château-Renaud, directeur d'études à l'EHESS, c'est comme ça qu'on dit ?
Oui, il y a plus de
micro.
Oui, donc j'ai le plaisir d'introduire Francis Château-Renaud, directeur d'études à l'EHESS, sur un titre qu'il a proposé et qui est vraiment tout à fait, on l'a vu déjà hier, mais aussi aujourd'hui, dans le style de la Réunion. Voilà, je te laisse la parole. Une trentaine de minutes.
Merci. Alors, je m'excuse parce que, bon, quand l'invitation m'a été faite de participer, j'étais loin et j'avais beaucoup de choses entre l'invitation et aujourd'hui. Donc, j'ai fait, c'est passé fort, ça va. Un exercice hier de rassembler des idées, il y a beaucoup trop de choses. J'avais pensé 45 minutes, bon, c'est 30 minutes. Comme on glisse, je ne vais pas trop non plus déborder pour le suivant. Je vais juste essayer de vous donner un aperçu un peu de ce qu'un point de vue de sociologue peut introduire dans les discussions. Et malheureusement, je ne pourrai pas tout approfondir. Je vous renverrai vers des références, des choses en ligne ou des textes existants. Donc j'avais 6 points. Rapidement, comment le dossier du climat, en fait, oblige le type de sociologie que je développe, notamment une sociologie des alertes et des controverses, puisque c'est à travers nos travaux, par exemple, qu'une notion maintenant bien vulgarisée comme celle de lanceur d'alerte s'est constituée. Évidemment, pourquoi le climat, en fait, pose des problèmes particuliers dans cette collection de cas, et j'essaierai de donner un point de vue. Évidemment, un point qui m'intéresse beaucoup, c'est l'interdépendance croissante des sources de risques. C'est comment, sur le terrain, dans les processus, dans les controverses, les acteurs vont articuler. Je prendrai quelques exemples. Là, il se trouve que je dois faire un truc sur les abeilles. Vous verrez comment, par exemple, la question des abeilles va croiser des problématiques, évidemment, biodiversité, changement climatique, pas seulement les OGM, les pesticides, bien sûr. Et donc, ce qui va m'intéresser, c'est comment les acteurs vont s'y prendre, en fait, quand ils vont avoir comme ça une pluralité de sources de risques. On a eu un exposé magistral sur la question du risque. L'incertitude va venir aussi de cette pluralité de difficultés de hiérarchisation quand on est pris, quand on est porteur d'une cause, par exemple. Et je prendrai aussi l'exemple du nucléaire, puisque vous savez, nucléaire, climat, c'est déjà une vieille histoire intéressante. Bon, je passerai rapidement, trop vite, sur la question des futurs, parce qu'au fond, ce que le climat, précisément, permet de bien regarder avec d'autres dossiers, c'est qu'est-ce que c'est que scénariser le futur. Bon, je renverrai évidemment à l'ouvrage collectif dirigé par Amidan, vous connaissez tous, hein, sur les modèles du futur, mais là, j'en fournis un angle de vue sociologique. Bon, si c'est trop dense, je n'aurai pas le temps de m'arrêter, mais il y a un texte en ligne qui devrait être publié dans un ouvrage dirigé par Dominique Bourg, et donc je l'ai mis en ligne, le PDF, parce que généralement les bouquins collectifs, si vous attendez qu'ils sortent, évidemment, les textes ne sont pas lus. Donc il est en ligne et vous le trouverez facilement sur mon site. Ensuite, évidemment, ce qui vous intéresse plus, là aussi je vais aller très vite, hein, une demi-heure, tout ça c'est serré, c'est comment au fond, dans pas mal de secteurs d'évaluation et de gestion des risques, on voit se développer, par rapport à ces questions d'incertitude, le développement au fond d'un modèle de préparation. Alors, preparedness, en fait, se traduit pas, c'est plus que préparation, c'est préparation à l'inéluctable, au pire ou à l'inattendu qui peut prendre de court. Et on voit bien sur plusieurs dossiers, je pense évidemment aux questions des pandémies, avec ces plans de lutte contre les pandémies qui ont prêté à sourire dans le cas de H1N1, enfin bon, qui ont une longue histoire derrière eux, dans la manière dont la sécurité nucléaire aujourd'hui est repensée, ces histoires de stress test, etc. Et évidemment, les questions d'adaptation qui vous intéressent sont une façon de dire, bon, mais voilà, de toute façon, on ne va pas continuer à discuter des incertitudes, on construit des dispositifs pour essayer de maximiser les capacités d'adaptation, d'anticipation et d'action sur le terrain. Et ça va évidemment concerner pas mal les acteurs. Alors, un point m'a beaucoup occupé, j'ai développé en partenariat avec le CNES, c'est la manière dont certains événements extrêmes aujourd'hui donnent lieu à des batailles d'interprétation, mais beaucoup plus fortement qu'avant, sur leur place précisément dans les processus de changement climatique. Et on a zoomé un peu sur Xynthia et on observe clairement des rapprochements qu'on ne trouvait pas, par exemple, en 1999, au moment de la tempête, voilà, qui a été beaucoup plus, d'ailleurs, global au niveau national que Xynthia. Et enfin, comment, en fait, les études, mais ça fera le passage avec ce qui va suivre, de sociologie, aujourd'hui, doivent gérer des dimensions multi-niveaux, multi-échelles, et s'en tenir, évidemment, à une observation de ce qui se passe au niveau global, ni au niveau local, mais regarder comment les acteurs se déplacent sur des échelles. Et là, j'ai commencé un travail avec des gens d'Ifremer autour du programme IFRECOR sur les aires marines protégées. Et là, effectivement, la problématique climatique évidemment, entre pleinement, mais c'est intéressant de voir comment le type de friction que ça produit sur le terrain. Alors, J'avais prévu de faire un point un peu sur le type de littérature un peu incontournable dans laquelle on navigue quand on entre en sciences sociales sur les questions de climat. Bon, rapidement, les conceptions de la société du risque, je renvoie à Ulrich Beck. Je suppose que tout le monde connaît, a lu Ulrich Beck ici. Je ne vais pas faire le coup de faire un test, etc. Mais vous voyez, donc l'idée est qu'on est passé évidemment dans une globalisation des politiques du risque qui vont générer des conflits. Beck expose dans son ouvrage en fait une conception très intéressante d'une tension entre aller vers plus de gouvernement mondial et en même temps susciter de plus en plus de défense en termes d'injustice environnementale notamment et d'inégalité. L'ouvrage qui est absolument indispensable, mais là aussi je suppose qu'il est banalisé dans la communauté ici, c'est celui de évidemment Paul Edwards, A Vast Machine, qui donc refait une histoire. Alors là, c'est plus le même cosmos, c'est pas tellement le cosmopolitisme de Beck, mais c'est plus l'histoire de construction des instruments et des infrastructures qui permettent véritablement de construire des modèles globaux, et il le prend sur une très longue durée. Donc là, on a une vision plus histoire des sciences. Enfin, bon, Amida, j'ai cité le travail sur le GIEC et des modèles du futur. Le travail aussi de Milagori, donc un ouvrage collectif sur l'expertise et la gouvernance du changement climatique, où là c'est la question du statut de cette expertise internationale. Et d'autres travaux qui vont plus se poser la question de la décision, justement, et du passage au politique. Alors, un qui est, que vous connaissez bien forcément, puisque Changement climatique, les savoirs et les possibles, qui a été publié il y a déjà 2 ans, ça passe vite, avec notamment Hervé Le Treut et Sylvestre Huette, dont on a parlé tout à l'heure, Chapelas et Godard, un ouvrage sur lequel j'aurais pu m'arrêter parce qu'il est intéressant en termes d'analyse, c'est « Quelle forme de démocratie ?» Donc, « Pour une démocratie écologique » de Dominique Bourg et Kerry Whiteside, qui est intéressant, je dois passer, mais dans la manière dont il compose précisément son signal d'alarme politique sur la faillite certaine de nos démocraties dès lors qu'elles ne vont pas changer leur constitution pour aborder des problèmes aussi complexes que le climat et la biodiversité, qui sont pour lui les deux dossiers importants. J'en viens rapidement au type de modèle qui est sous-jacent à l'analyse des alertes et des controverses que je développe. Alors, là, je suis obligé d'aller vite, parce que, au fond, moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas d'avoir des espèces d'échelles un peu empilées, avec des signaux qui seraient envoyés en haut et des localités qui les recevraient, qui les retraduiraient, ou inversement des choses qui remonteraient, bottom up, top down, etc., mais plutôt de prendre les choses en processus, de regarder comment se transforme au fil du temps un objet d'alerte, de controverse, un problème public. Et ce modèle a pas mal fonctionné. On l'a fait tourner beaucoup sur le nucléaire, sur les OGM, sur l'amiante, sur la vache folle, plus récemment sur les pesticides, sur les ondes électromagnétiques, etc. Et une des questions que moi me pose la question du climat, c'est au fond, est-ce que je peux reprendre l'historique de ces affaires de climat et regarder si on retrouve bien, en fait, dans les différentes phases, le moment d'émergence, le moment de controverse, le moment de polémique. Pour moi, évidemment, le climato-scepticisme est typiquement une manière de réintroduire de la polémique dans un processus pour en perturber le fonctionnement. Les moments de mobilisation politique, les dispositifs de normalisation et de retour en arrière ou de stabilisation et le type de rebondissement que produisent les acteurs. Ce qui est intéressant dans ce modèle, c'est qu'à la fois ça permet d'avoir une sociologie de tout ce qui se passe dans les arènes publiques. Alors, les médias ne sont qu'une des arènes possibles. Dans le type de sociologie que je développe, il y a toutes sortes d'arènes, d'espaces qui tombent dans l'observation, évidemment. Les institutions publiques, les institutions politiques, les groupes d'experts, etc. Et c'est surtout la manière dont les relations avec les milieux, concernés ou pas concernés, vont produire des transformations dans l'interprétation des signaux et vont faire bouger des acteurs. C'est comme ça qu'on va voir, par exemple, des apiculteurs surgir dans le dossier des OGM. Dans un premier temps, c'est un peu incongru, etc. Alors, ça, je passe vite, c'est ce qu'il y a derrière. Type de sociologie empirique, c'est construire donc une immense base de données à partir de collections de dossiers qu'on essaye de suivre dans la longue durée. Je pourrais revenir s'il y a des questions plus tard. Vous trouverez énormément de choses en ligne, notamment sur un carnet de recherche qui s'appelle Socio-informatique et argumentation, où on développe en fait ces techniques, comment on va au fond essayer de comprendre comment les différents dossiers évoluent, se croisent, donnent lieu à des controverses ou des polémiques, à des régulations. Si vous prenez par exemple le fil particules fines ou particules ultra fines qui est tout en bas, Vous voyez que pas plus tard qu'hier est annoncée une décision de l'OMS de changer le statut de cancérigène des particules fines et donc du diesel, et avec des problèmes que ça pose. Donc chaque dossier comme ça va avoir des moments forts où vont se transformer des jeux d'acteurs et d'arguments, vont se prendre des décisions qui peuvent modifier radicalement les interactions entre les milieux, etc. Et donc le climat, je ne l'ai jamais abordé frontalement pour l'instant, et donc je suis un peu à la recherche de partenariats, de coopération de ce point de vue-là, puisque je l'ai abordé, je dirais, de manière de biais. La première façon dont je l'ai abordé, évidemment, vous trouverez 2-3 articles publiés sur cette question-là, c'est comment, dans le dossier nucléaire que je suivais depuis fort longtemps, l'argument climatique a surgi, évidemment, porté par les promoteurs de la filière nucléaire civile, puisque, l'industrie à faible émission de gaz à effet de serre, comme on sait, etc., évidemment, suscité de la part des opposants et de ceux qui visaient une sortie du nucléaire, en tout cas une réduction forte de ce champ-là, une réaction vive. Et ce que j'ai regardé, c'est pendant 15 ans, en fait, les arguments s'organisent de part et d'autre et arrivent aujourd'hui à une situation intéressante, puisqu'on va avoir des acteurs scientifiques qui vont mettre en évidence la vulnérabilité de l'industrie nucléaire face au changement climatique. Donc, ça, c'était juste un point important, puisque l'IRSN, qui est un des éléments centraux du système de régulation et d'évaluation des risques nucléaires en France, comme vous le savez, a depuis des années produit un baromètre qui est au fond une espèce d'image, qui se fait une image annuelle, par enquête par sondage assez fouillée, des préoccupations des Français en matière de sécurité. Et ce qui est flagrant, c'est que le climat, les bouleversements climatiques, selon l'appellation utilisée par cette grille, chutent, c'est-à-dire depuis 2 ans, effectivement. Alors, je ne sais pas si c'est un effet identique à celui qu'on peut observer aux États-Unis, mais en tout cas, évidemment, ça tient à plusieurs choses, mais en particulier, évidemment, la structure des préoccupations va accompagner, évidemment, des situations de crise ou des situations... Par exemple, H1N1 est encore resté dans la grille en 2011, alors qu'à l'évidence, le virus de la grippe H1N1 a largement fait long feu, et on a bien vu que c'était une sorte de fausse alerte organisée au niveau mondial, qui a produit quand même pas mal de dégâts d'ailleurs sur les dispositifs d'annonce et de vigilance. Alors, moi, 4 points m'intéressent fondamentalement, et je suis là aussi pour apprendre des choses et ouvrir des discussions futures. Je sais pas, donc c'est essentiellement la manière dont, dans des formes d'alerte et de risque qui vont se constituer un peu partout, puisque là vous avez vu une première liste tout à l'heure dans le tableau, mais on peut en rajouter énormément de dossiers, c'est comment finalement les questions climatiques viennent s'intriquer, s'imbriquer, se connecter dans d'autres préoccupations. Si on prend l'exemple par exemple des récifs coralliens, on voit bien que ça fait partie des éléments évidemment centraux dans les raisonnements, dans les enquêtes, dans les expériences, mais qu'en même temps ça vient se connecter à d'autres préoccupations. Dans le cas des abeilles, on va le voir tout à l'heure, il est évident que l'hypothèse climatique d'une élévation de température vient évidemment ajouter un stress particulier sur les populations d'abeilles, dont la mortalité, comme vous savez, est enregistrée un peu partout. L'autre point, c'est comment les systèmes de prévention des crises et d'organisation des dispositifs d'urgence colonisent d'une certaine manière l'ensemble des secteurs en produisant une forme de gouvernement des risques qui va marquer une forme d'alerte permanente. Alors c'est vrai, quand on regarde par exemple le discours de certain nombre d'organisations internationales sur la longue durée, on a l'impression en fait qu'il y a une espèce de signal d'alarme permanent qui est lancé, qui est porté très haut. Alors avec Rio plus 20, évidemment, vous avez suivi. Alors, c'est par exemple le programme des Nations Unies pour l'environnement qui lance sa contribution, c'est en gros, malgré les efforts internationaux, le monde s'oriente vers des crises écologiques sans précédent. Oui. Donc ce n'est pas un lanceur d'alerte isolé ou un prophète de malheur qui lance le signal, là c'est vraiment porté. Et quand on remonte dans le temps, on voit comme ça, on a une continuité de ce travail, ce qui va produire en fait des effets sur ce modèle de la preparedness, comment les institutions en fait vont être amenées à avoir des plans d'adaptation, des plans d'anticipation en permanence, et aussi au niveau local. Bon, évidemment, autre point qui est central pour une sociologie du climat, c'est la question de la confrontation entre les modèles, les observations et les données, puisqu'évidemment, les acteurs de terrain vont jouer un rôle clé dans cette construction. C'est-à-dire qu'évidemment, ce que vous avez fait ici, c'est regarder toutes les manières d'attraper la question des incertitudes à partir des modèles eux-mêmes. Mais évidemment, sur le terrain, il va y avoir des problèmes, d'autres formes d'incertitudes qui vont être des manières d'articuler des formes de connaissances, des formes de savoir, et de travailler le format des données pour les rendre calculables, etc. Et ce qu'on voit émerger, c'est évidemment des acteurs qui revendiquent une science participative de plus en plus forte, c'est-à-dire qu'ils viennent se mêler, au fond, de la discussion des phénomènes et de leur observabilité et des formes d'indicateurs et de calculs qu'on peut générer. Enfin, évidemment, dès qu'on regarde des localités, on a des frictions. Là, j'emploie le concept au sens d'une anthropologue américaine, Anat Singh, qui a beaucoup travaillé sur des questions de déforestation et de préservation de la forêt. Plusieurs acteurs, en fait, entrent rapidement en conflit sur la définition, à la fois du problème, des manières de le régler et de sa portée, c'est-à-dire de la manière dont il va pouvoir faire précédent ou servir d'appui pour des actions futures. Bon, ça c'était un peu pour vous montrer le sac de nœuds dans lequel on est dès qu'on tire un fil. Par exemple, on entre par des produits chimiques, ça c'est aux États-Unis, c'est sur la manière dont se font des bagarres sur la régulation des produits chimiques. Et très rapidement, vous avez comme ça tout un ensemble d'autres objets d'alerte, de risque, de controverse qui surgissent avec des opérations de comparaison, avec des mises en liste, avec des fabriques de catégories, de familles de problèmes. Et on est très vite dans une interconnectivité très grande aujourd'hui. Donc finalement, une matérialisation dans cet espace-là de l'idée d'interdépendance. C'est que quand on tire un problème, effectivement, on voit arriver très rapidement les autres. Et ça va poser des problèmes intéressants pour nous, méthodologiquement, sociologie. C'est comment suivre cette complexité. Donc finalement, on a un problème assez commun avec d'autres sciences, c'est-à-dire comment fournir finalement des descriptions et avoir des concepts et des outils qui permettent de circuler dans cette complexité sans réduire non plus l'interdépendance entre les problèmes. Donc par exemple, là je m'amuse à regarder le changement climatique dans l'ensemble de la collection de corpus qu'il y a sous nos outils, partagés par le labo et les acteurs avec qui on travaille. Et vous voyez qu'on va pouvoir rapidement trouver des connexions. Alors là, j'ai pris l'exemple des abeilles, puisque la question des abeilles, donc, c'est une vieille affaire. Elle a déjà, là aussi, il y a 20 ans d'histoire de ce dossier. Donc, vous voyez, je peux rentrer par ce fil-là. Et ce que je vois, c'est que rapidement, dans les moments d'évaluation, de discussion, et de tentative de clore les controverses, ou les incertitudes, de réduire les incertitudes sur la causalité en cause, puisque je vous rappelle qu'il y a eu notamment en Europe et en France en particulier l'affaire du gaucho, puis du régent, et puis plus récemment celle du cruiser. Donc l'insecticide suspecté en priorité, mais en réalité on voit des acteurs se bagarrer sur une multiplicité de causes, et vous voyez que le changement climatique ou le climat est introduit rapidement dans la série et devient même un des éléments clés. Puisque, au fond, les deux facteurs qui sont mis en place dans ce rapport qui est remis à l'Union européenne à la Commission en 2008 sur la mortalité des abeilles et leur surveillance, c'est évidemment la perte de biodiversité et le climat qui produit un type de stress particulier avec l'appauvrissement de l'environnement et la montée, évidemment, des variations de température. Donc, on voit bien que ce qui est intéressant dans le climat, c'est pas simplement de le prendre comme un objet qui serait en lui-même un problème qu'on pourrait traiter séparément, mais de bien regarder partout où les acteurs vont prendre appui dessus, vont l'introduire dans des séries causales, et ça va produire la cause du climat autant que les déclarations globale faite par les uns ou par les autres. Donc il y a bien en fait une entrée du climat dans tout un tas de dispositifs, ce qui me permet de dire que certes il y a des mauvais coups portés, que ce soit par des climato-sceptiques ou des marchands de doute, etc. Mais en même temps, on a vraiment de manière pragmatique une intégration par un grand nombre d'acteurs, des éléments produits par la machine climatique globale et par l'IPCC en particulier, dans leur raisonnement, dans leurs études, et que finalement ce travail de tissage, de maillage, d'arguments et d'appui, évidemment, c'est très difficile de le briser. Donc il ne faut pas non plus tomber dans une espèce de pessimisme, parfois un peu comme ça. Je me rappelle d'un colloque organisé par Politis au moment où il y avait eu une attaque très personnelle d'un certain nombre de personnalités sur les questions, donc bon, Allègre et Courtillot pour ne pas les citer, Ils appelaient les sciences sociales un peu à la rescousse pour essayer de comprendre ce qui se passait, etc. C'est vrai que le sentiment ou Copenhague comme échec de négociation, en fait, quand on regarde à un niveau, quand on change d'échelle et qu'on regarde à plusieurs niveaux, on voit que des acteurs se sont emparés de ces questions et les font travailler. Et c'est là qu'effectivement, on est obligé de rajouter, nous, dans le tableau, en tant que sociologue, un tas d'acteurs. Il n'y a pas simplement que les politiques et les scientifiques, il y a évidemment, par exemple, tout le milieu associatif, tous les acteurs qui vont, toutes les collectivités territoriales, qui vont introduire, en fait, ces dispositifs et négocier les aspects. Donc, voyez, le type d'alerte globale qui ne cesse de se répéter depuis maintenant des décennies, c'est pour nous intéressant d'aller voir comment, sur le terrain, elles sont saisies. Et le type d'attention qu'on peut porter à ces dispositifs est vraiment phénoménal. Bon, là, en tant de minutes, je ne peux évidemment pas m'amuser à faire des analyses précises de ces dispositifs. Vous voyez, par exemple, j'avais ramené un exemple typique, là, quand il y a eu l'incendie en Russie qui s'est rapproché singulièrement d'un centre de production nucléaire. Là, vous avez le réseau sortir du nucléaire qui va utiliser la multiplication des événements extrêmes comme appui pour montrer la vulnérabilité particulière du nucléaire à ce genre d'événement, et donc il va utiliser le raisonnement d'une manière finalement intéressante du point de vue argumentatif pour montrer que l'argument qui met en avant le nucléaire comme élément de lutte contre le réchauffement, évidemment, se retourne dès lors que le réchauffement veut dire multiplication des événements extrêmes et vulnérabilisation d'un certain nombre. Donc ça veut dire que les acteurs s'en emparent, et d'une certaine manière, là, je ne sais pas comment on peut l'interpréter comme ça rapidement, mais en gros, autant des signaux vont se perdre ou vont s'abîmer dans cette balistique que je décris globalement sur la durée des trucs, autant ils vont se renforcer. Et ce qui est intéressant, c'est de voir la convergence. Par exemple, une étude qui a été publiée, vous l'avez sûrement vu passer récemment, qui montre effectivement qu'il va y avoir de sérieux problèmes de vulnérabilité et d'adaptabilité des centrales, pas seulement nucléaires, mais aussi thermiques, au changement climatique. Donc vous voyez que des processus de consolidation se produisent. Alors là-dessus, je ne peux que vous renvoyer au texte en ligne, vous le trouverez facilement, il s'appelle « Des prises sur le futur ». Quand les acteurs engagent le futur, évidemment, ils ont une pluralité de manières de le faire. Et là, j'essaye de distinguer analytiquement, et je crois que c'est important de le faire, sept modèles qui vont de l'urgence à la prophétie. Et je pense que quand on est plus précis, notamment sur le type de modalité et d'échelle temporelle qui est engagé dans le processus. C'est vrai que si vous dites, par exemple, il y aura un réchauffement de plus de 2 degrés d'ici plusieurs siècles, vous n'aurez pas la même contrainte argumentative que si vous précisez, par exemple, une échelle temporelle. Donc on voit bien qu'il y a de manière sous-jacente à la... au passage d'un énoncé. Alors ça concerne beaucoup, en fait, le problème de la traduction entre univers scientifique où on se construit des métrologies assez stabilisées et univers où on va faire varier considérablement les échelles de temps. Parce que quand on dit qu'on ne peut pas prédire le futur, évidemment, et c'était tout à fait pertinent, de revenir sur la question de la prémisse, effectivement, qu'est-ce qu'on sait du présent, qu'est-ce qu'on sait du passé pour penser le futur, etc. Ça va dépendre complètement des échelles de temps dans lesquelles on se place. Et donc dans l'échelle dans ce tableau-là, ce qui est intéressant, c'est de regarder comment varie constamment dans les disputes et dans les processus d'alerte les manières. Donc il y a différentes modalités, donc là je ne vais pas les détailler. Hein. Vous avez une modalité de l'urgence, et là, en ce moment on voit un tas de messages qui surgissent et qui sont toujours sur l'idée de l'urgence, parce que c'est maintenant et il n'y a plus de temps, le temps se dérobe à l'action. Évidemment il y a l'attente, qui est aussi en fait une des stratégies... qu'on pourrait mettre à gérer dans la colonne avec le doute, c'est-à-dire vous différez. Aujourd'hui, c'est très difficile quand même, on pourrait y revenir, mais sur ces questions de risque, des autorités publiques qui mettraient en attente, effectivement, seraient très vite dénoncées ou suspectes. L'anticipation, qui renvoie donc à ce modèle de préparation dont je parlais tout à l'heure, qui devient en fait la manière de dépasser l'urgence et l'attente. Anticiper, c'est éviter précisément de se retrouver dans une situation d'urgence et éviter de différer, d'attendre, comme on a attendu 15 ans pour prendre au sérieux, par exemple, les mésothéliums qui ne cessaient de s'accumuler dans le cas de l'amiante. C'est vrai que c'est 15 ans de retard, c'est 15 ans d'attente où il ne se passe rien sérieusement en termes de régulation et de décision politique, évidemment, produisent à la sortie un scandale et une situation explosive. Évidemment, après les trucs plus classiques que vous connaissez bien, la tension entre prévision et prospective, qu'est-ce que c'est que calculer, élaborer des calculs sur un futur étalonné ou produire des scénarios. Bon, c'est une vieille querelle qu'on connaît bien, mais qui est centrale, et on voit bien que ça pose problème sur que fait le GIEC, par exemple, quand il produit ses scénarios, qui est une clarification des régimes. Évidemment, la promesse, qui est tout à fait une autre manière de construire le futur, vous savez, alors... Toujours sortir la blague comme quoi ça ne concerne que ceux qui vont croire à la promesse, mais en tout cas, ça pose bien le problème de l'engagement sur le futur. Vous savez que les promesses technologiques, ça renvoie un peu à la discussion tout à l'heure sur la foi dans le progrès, cette idée qu'il y a un engagement d'acteurs qui annonce des transformations technologiques qui permettront de résoudre des problèmes. On l'a vu beaucoup sur les nanotechnologies ces dernières années, et évidemment la prophétie, ce qui permet évidemment de clarifier un peu les choses, de ne pas appeler prophétie tout et n'importe quoi. Alors, ça renvoie tout à fait au modèle d'incertitude dont on a parlé tout à l'heure. Dans les affaires de nos acteurs, il y a deux modèles, il y a deux formes de conséquentialisme. On est dans des processus où le raisonnement par les conséquences est dominant. Ce qui domine le type d'argumentation que portent les acteurs, c'est les conséquences de ce qui a eu lieu, de ce qui va avoir lieu, de ce qui est en train de se passer, etc. Et donc il y a deux formes de conséquentialisme en conflit et qui renvoient un peu à ce partage calculabilité ou ouverture des futurs avec une incertitude, une détermination radicale. Soit vous pouvez établir la liste des conséquences et donc calculer un certain nombre de phénomènes sur cette base, soit en fait la liste est constamment en train de se redéfinir. Est-ce que vous pouvez fixer la liste des conséquences de Fukushima ? Très difficile. Il y a un moment donné, c'est ouvert un futur nouveau avec des enchaînements et des réactions multiples qui vont changer complètement à chaque étape, à chaque moment du processus, la calculabilité des objets. Et donc c'est vrai qu'on n'est plus dans un raisonnement probabiliste et on voit bien que ça n'a plus de sens, littéralement, puisque l'occurrence de l'événement, là en l'occurrence, va modifier complètement le raisonnement sur les conséquences en produisant des changements de statut de vulnérabilité et des opportunités pour d'autres acteurs. Vous trouvez, il y a par exemple pas mal de prophéties de malheur, entre guillemets, sur, par exemple actuellement c'est sur la piscine du réacteur 4 de Fukushima où des acteurs annoncent que vu la probabilité qu'un séisme se produise dans les mois qui viennent, etc., vu l'état de cette partie de l'installation, si ça se produit, c'est une catastrophe à nouveau terrible. Et la plupart finissent leur proposition en disant « mais c'est quand même l'occasion rêvée de prendre conscience qu'on peut enfin changer de modèle énergétique définitivement, etc. » Et vous voyez, donc il y a bien cette balance en permanence sur les modifications. Bon, sur l'incertitude, beaucoup de choses ont été dites. Moi, du point de vue sociologique et le mien, quand je suis les acteurs, j'essaie de comprendre ce qu'ils fabriquent dans ces différents processus, que ce soit l'alerte, la polémique, la normalisation de la mobilisation politique, je constate trois formes d'usage, et ça renvoie assez bien finalement, c'est assez complémentaire. Il y a un usage qui est l'inquiétude, c'est-à-dire qu'on peut remplacer le mot inquiétude par incertitude réciproquement, et c'est-à-dire la manifestation d'une incertitude sur ce que va produire une action ou ce que va devenir une situation dans l'expérience qu'en font les acteurs. Et il ne faut pas la retirer. Parce qu'évidemment, si on la retire, on va ensuite avoir une espèce d'opinion ou d'émotion populaire qu'on va mettre à distance, alors que, évidemment, tous ces processus suscitent, par exemple, de la colère ou des questions, des choses qui vont préoccuper, de la préoccupation. Et je pense que si on veut mobiliser des acteurs sur des sujets comme ça, évidemment, il faut tenir compte de leurs préoccupations. Et donc, du type d'inquiétude qui émerge de leur propre milieu activité. L'incomplétude, bon, ça a été fortement développé, donc je reviens là-dessus. Donc là, on est dans une incertitude qu'on tente d'endogénéiser par différentes formes de modélisation ou de raisonnement. Et la troisième forme, qui a beaucoup surgi depuis, en gros, Hans Jonas et tout le développement sur les risques globaux depuis maintenant 20-30 ans, c'est cette idée d'incertitude radicale ou d'indétermination, qui, je le rappelle, pour par exemple quelqu'un comme Claude Lefort, est un trait fondamental des démocraties. C'est-à-dire une démocratie pourrait quasiment se décrire comme une forme de société qui assume l'indétermination du futur, qui ne cherche pas à le déterminer complètement, et qui donc ouvre les futurs en laissant indéterminer en fait les chemins, les processus qui conduiront vers tel ou tel processus. Donc vous voyez que faire tenir ensemble ces trois formes, ça explique évidemment la complexité à la fois des bugs de communication, les tensions un peu parfois irrémédiables ou en tout cas récurrentes entre les différents jeux d'acteurs, et surtout la difficulté à avoir une orientation stabilisée, et puisqu'évidemment, soit on va vers la forme du gouvernement mondial, celle d'Alexander Wendt, c'est-à-dire vous avez un gouvernement mondial qui envoie ses injonctions pour aligner les acteurs sur une cause et une seule, et qui permet de les mobiliser. L'OMS a essayé de jouer ce rôle sur H5N1 et puis sur H1N1. On a vu quand même que ce n'est pas évident. Enfin, ça pose des problèmes considérables de traduction. Je vous rappelle que si l'OMS s'est mis dans cette position, c'est parce qu'avec le SRAS, ça avait été quand même un peu foireux. C'est-à-dire qu'en gros, le passage d'ailleurs à Toronto d'un certain nombre de cas avait été considéré comme un échec du dispositif du fameux règlement sanitaire international qui permet en fait d'envoyer une alerte et de s'assurer que tous les pays jouent le jeu de la transparence, déclaration des cas, de la veille, de la surveillance, etc. Et donc, est-ce que le climat, au fond, porte avec lui, ça c'est une question intéressante, vous voyez que les discussions qui sont portées actuellement sur l'idée d'une organisation mondiale de l'environnement, c'est-à-dire qu'en gros, nue, complètement transformée, qui serait l'équivalent de l'OMS, au fond, pour l'environnement, c'est quand même un enjeu d'un moment de rendre gouvernable au niveau global, une cause pour précisément rendre praticable le passage entre le moment de l'alerte, le moment de la clôture des controverses et de la stabilisation des faits et du partage entre ce que l'on sait et ce qui reste incertain, et les politiques d'adaptation, d'action, que ce soit l'atténuation, l'adaptation, voire le développement d'alternatives, puisqu'aujourd'hui ce qui monte beaucoup dans ces dossiers-là, évidemment, c'est des alternatives, par exemple agricoles, économiques, économie verte, on peut en parler, etc. En fait, toutes sortes en fait, de transformations foncières, si j'ose dire, des processus. Alors évidemment, vous voyez, j'avais pensé, la quatrième forme d'incertitude, c'est celle qui évidemment introduit la rhétorique. Donc là, Clonary l'a parfaitement explicité. Moi, j'avais une autre référence, c'est « Doubt is their product », qui est peut-être moins, qui n'a pas été traduit en français, je crois. C'est par David Michaels, qui est un... Donc How Industry's Assault on Science Threatens Your Health. Donc c'est beaucoup aussi sur l'industrie du tabac. Je pense qu'il est un peu un précurseur par rapport à l'autre. C'est toujours cette idée, au fond, que des acteurs peuvent venir gonfler effectivement des points d'incertitude, introduire de la polémique. 5 minutes, ça crée vraiment de l'incertitude à fond là, sur ce que je vais dire en 5 minutes, mais sur des objets qui étaient en cours de processus, sinon de stabilisation en tout cas, de fabrication collective. Donc c'est vrai que dans tous les dossiers, je ne connais pas un cas où il n'y ait pas une tentative de réversibiliser. Alors c'est ce que, avec un philosophe anglo-américain, Williams, appelait les deniers, traduit par les négateurs, en fait, c'est-à-dire qu'ils vont essayer de revenir sur un noyau de faits et déstabiliser le processus de mobilisation. Voilà, donc ça c'était pour l'incertitude, donc je passe rapidement là-dessus. Je voulais en venir rapidement à l'adaptation. Quand on regarde par exemple dans le fil climat de notre corpus, hein, qui est on voit qu'en fait, par rapport à la structure temporelle du corpus, la question de l'adaptation va crescendo dans les dernières années, donc c'est vraiment quelque chose dont se saisissent de plus en plus d'acteurs dans la période très récente. Donc on voit bien qu'il y a une injonction, etc. Alors, on peut le prendre par différents bouts. Là, je m'étais amusé à regarder la manière dont le futur était annoncé dans le plan national d'adaptation, qui a donc été rendu public en mars 2011, si je crois, et dont on voit bien que les énoncés sont très importants. Par exemple, vous dites « le changement climatique est en cours ». Alors, évidemment, ce plan national coupe l'herbe aussi sous le pied du climato-scepticisme. Il arrive après la polémique, etc. Donc, on voit bien que là, il y a une position qui est prise, qui est quand même affirmée. Et nous en constatons déjà un certain nombre de conséquences qui ne feront que s'amplifier dans l'avenir. Donc, là, c'est là où, normalement, bon, c'est des séances de séminaires entières. Hein. Si on commence à regarder très précisément comment les choses sont agencées, regarder la manière dont le futur est posé, les prises pour l'action telles qu'elles sont décrites, évidemment, on a une vision très différente hein, de ces processus. Et on voit plus le travail politique et cognitif que font les acteurs sur les objets. Donc vous voyez bien le GIEC évidemment posé comme autorité épistémique hein, dans cette affaire-là, tout de suite, hein, ça c'est les premiers paragraphes du plan, et avec donc, ce que vous avez discuté finalement qui se retrouve dans un dispositif normatif, puisque c'est un plan national d'adaptation donc, qui va avoir un effet, qui est censé avoir un effet de structuration, etc. Bon, je passe rapidement, mais vous voyez que cette idée qu'il doit y avoir une interaction forte entre l'adaptation et l'atténuation, évidemment, est centrale dans cette affaire-là, puisqu'il faut en fait arriver à créer des synergies locales Et ça va être tout le problème. Je passe là-dessus. Juste, il me reste donc 3 minutes, j'imagine. Là, ça file. Hein. Donc, je voulais montrer comment, évidemment, la thématique des événements extrêmes va jouer un rôle majeur dans les changements de perspective, dans les révisions de croyances, comme dirait certains philosophes, de pas mal d'acteurs. Évidemment, vous avez reconnu les images satellites de la faute sur mer, non prédestinée, n'est-ce pas ? Et donc, passage de Xintia, avant-après. Évidemment, quand on regarde ce genre d'événement et comment les acteurs les traitent, aujourd'hui, la montée en puissance de l'argument climatique est quand même tangible. C'est-à-dire que là, on peut dire que ça prend. C'est-à-dire qu'il peut y avoir tous les climato-sceptiques de la Terre, à un moment donné, si vous voulez, il y a une épreuve de réalité. Et donc, ce qui est intéressant dans ces affaires de climat, c'est pas d'en rester uniquement, évidemment, à la manière dont les modèles peuvent se devenir robustes et faire consensus, mais évidemment comment les épreuves de réalité, les événements et l'accumulation d'indices et d'éléments matériels acheminés par les acteurs eux-mêmes va évidemment se renforcer et produire des interactions marquantes. Alors là j'avais pris un exemple, je vais passer vite, hein. C'était par exemple sur l'histoire des incendies russes. J'étais amusé dans le cadre d'un séminaire à Berlin à prendre cet exemple. Des différentes positions que ça peut susciter ce genre d'événement. Donc vous voyez que sur chaque événement, on voit arriver l'ensemble des positions possibles. Alors il y a les sceptiques, il y a ceux qui disent que ça rentre parfaitement dans les statistiques déjà accumulées, il y a ceux qui disent « je pense que oui, as a scientist, whether I have proved it », je dis non, mais pas encore. Oui, notre diète. C'est très intéressant quand même. Le pas encore est stratégique, argumentativement fondamental. Donc, j'ai déjà un texte, vous verrez dans le truc sur les prises du futur, entre déjà et pas encore, il y a un travail de mouvement argumentatif qui est fondamental. Ce qui n'a pas encore eu lieu, ce qui a déjà eu lieu, le précédent et le possible, ça se co-construit, etc., etc. Bon. Donc, vous voyez qu'il y a toutes les positions, je passe, etc. Je m'étais amusé à regarder, par exemple, dans certains supports comme Notre Planète Info, etc., comment se stabilisent progressivement des énoncés. Par exemple, là, vous avez une question vers une augmentation des phénomènes météorologiques extrêmes. Point d'interrogation, on est en 2003. Des vagues de chaleur de plus en plus longues en Europe, en 2007. Catastrophe naturelle en Syrie, la faute au réchauffement climatique. Vous voyez, il y a un point d'interrogation, donc ça veut dire que ça passe sous cette forme-là. Et puis tout à coup, on avait le lien entre précipitation diluvienne et réchauffement climatique est établi. Boum. Vous avez des changements de régime énonciatif qu'il est important de remettre en série historique, de regarder comment ils circulent, leur circulation générale, pour faire une métaphore qui devrait vous sert, en fait, vous plaire. C'est vrai que, regardez comment, au bout d'un moment, des questions ne se posent plus, des associations entre thèmes et problématiques. Là, par exemple, dans le cas de Xintia, ce qu'on observe, c'est une forte présence du réchauffement climatique comme élément interprétatif. Je n'ai pas le temps de zoomer, là j'étais un peu ambitieux en le faisant hier, j'étais parti dans mes trucs, je me disais, allez, je mets ça, et puis je mets ça aussi, etc. Vous voyez que c'est riche et c'est dense derrière, qu'il s'agit vraiment d'aller regarder comment ça se passe sur chaque point, et on voit en fait que la question de l'adaptation, elle va passer par ces épreuves. Alors, par exemple, en France, toute nouvelle construction sera interdite, devrait intégrer de nouveaux risques comme ceux liés au changement climatique. Donc ça veut dire qu'on fait rentrer quand même à l'appui de nouveaux dispositifs. Alors vous avez le rapport officiel qui avait été remis au gouvernement. Alors, ce que j'aime bien, c'est les 7 piliers de la prévention des risques naturels. On pourrait s'arrêter là-dessus aussi, c'est très intéressant. Alors oui, c'est un peu complémentaire par rapport à ce qu'a montré Claude Henry. Là, il s'agit de partir des appuis que les acteurs acheminent et finissent par en fait cultiver dans les processus, et si on les regarde, on voit quand même au fil du temps, et selon les dossiers évidemment, se produire alors soit des chocs, entre visions du monde, soit des problèmes de hiérarchisation de problèmes, soit au contraire des appuis qui deviennent absolument naturels. Et c'est vrai que le changement climatique, moi ce que j'observe dans tous mes cas, finit par entrer comme soit une source de problèmes, soit comme une des causes des phénomènes observés, soit comme quelque chose qui va permettre de réguler d'autres problèmes, car la biodiversité, etc. Alors, juste rapidement, je finis là-dessus. Moi, ce qui m'intéresse maintenant dans les prochaines années, après avoir quand même énormément décrit des processus de controverse au niveau national, régional ou international, c'est d'aller voir concrètement dans des zones qu'il va falloir choisir avec précaution pour ne pas se se perdre, comme on dit, parce que le problème du local, c'est qu'il faut être au bon endroit. Donc avec l'IFREMER et l'ITOCEAN, qui est une association que vous connaissez peut-être, montée par, entre autres, Bernard Calahorra, l'idée, c'est de cumuler, de faire une casuistique, si vous voulez, des manières dont entrent en tension les dispositifs de protection, par exemple des aires marines protégées, qui incorporent précisément des éléments liés au climat, des éléments liés à la biodiversité et à toutes sortes de problèmes liés aux protections de zones naturelles, etc., et à l'usage des ressources, notamment les ressources biologiques, vous connaissez bien, et de regarder comment les acteurs vont, sur le terrain, en fait, faire avec ça. Donc c'est une manière aussi de passer la balle à la suite, parce que les trames vertes, d'une certaine manière, ça va être aussi des lieux où vont se composer, s'agencer à des intérêts. Alors ce qui est important, me semble-t-il, pour bien comprendre, on a un peu le même genre d'incertitude quand on change d'échelle avec des modèles un peu physiques ou autres, c'est quand on va sur le terrain dans des localités, évidemment on découvre des acteurs qui sont pris dans des entrelacs de relations, dans des jeux de pouvoir, dans des processus extrêmement non reproductibles juste à côté, et les plans, les dispositifs, les standards, la fabrication même des indicateurs de tout ce qui va essayer de stabiliser, de rendre calculable ce qui se passe pour donner une mesure, c'est un peu comme l'AERS et les laboratoires, n'est-ce pas, ça va évidemment poser des problèmes. Alors je ne veux pas sortir le coup de la Chine avec ses 20% de sous-déclaration de machin, etc., parce que là c'est un peu gros, mais à chaque fois vous allez avoir des tensions entre le déclaratif, le jeu institutionnel local qui va évidemment permettre à certains acteurs de pousser des problèmes plutôt que d'autres, et on va retrouver des problèmes de hiérarchisation et de tension, de friction. Et donc sur les questions de coraux, ça me semble être un des fils à suivre, parce qu'évidemment les alertes ne cessent de se lancer. Vous voyez par exemple, dans un de mes corpus, je retombe sur un texte du Monde qui s'appuie sur une étude et sur un dispositif lancé par la France. On est en 99, hein, et on a déjà un énoncé... notamment là, vous voyez, la barrière corallienne donc, est menacée à terme, comme partout ailleurs sur la planète, par le réchauffement de l'atmosphère. Vous voyez, donc on a déjà introduit cette dimension en 99. Donc ça veut dire qu'il y a, en regardant un petit peu dans tous les dispositifs, on trouve en fait des impacts et des effets de tout ce travail autour du climat qui sont beaucoup plus profonds que simplement la surface ou ce qui surgit. Voilà, je m'arrête là, puisqu'après on pourrait suivre ce fil. Ça m'amènerait à faire une deuxième conférence. Merci en tout cas de votre patience.
Je ne sais pas si tu pourras être parmi nous cet après-midi.
Si, je vais rester, oui.
C'est ça. Donc, oui. Dans la table ronde, je pense qu'on aura l'occasion d'aborder vraiment pas mal de questions concernant les points que tu as abordés. Alors, quelques minutes pour la discussion.
C'est court.
Et oui. Laurent.
Oui, moi je vais revenir un peu sur Cynthia, sur les événements extrêmes, parce que c'est un point qui est intéressant, qui est toujours un peu délicat. Il y a deux mots que j'aimerais introduire, là c'est les mots détection et attribution. Donc dans l'interprétation qu'on fait sur l'origine, enfin les causes sur les événements extrêmes, le point de vue du climatologue est toujours de dire qu'il est impossible d'attribuer un événement singulier à une cause particulière. En revanche, depuis quelques années, il y a de plus en plus de climatologues qui travaillent sur la notion de changement de probabilité d'occurrence de ce type d'événement. Et en fait, la forme de la preuve, c'est clairement la forme de la preuve qui a été choisie. Et j'en veux pour illustration qu'il y a de plus en plus de gens, il y a maintenant des projets, des programmes, qui travaillent sur ce qu'on appelle l'attribution des événements extrêmes. Et d'ailleurs, dans le prochain rapport du GIEC, il y aura une partie là-dessus. Et donc, on essaye de mettre en œuvre des techniques statistiques un petit peu compliquées, qui étaient avant appliquées sur des questions de moyenne, de changement moyen, aux aspects de détection et attribution, qui sont deux choses différentes. Détection, c'est montrer par rapport à une référence, qui d'ailleurs, son choix est d'ailleurs une question intéressante en soi, il y a quelque chose qui émerge fortement de cette référence, sans donner une cause particulière, donc c'est un premier élément, et deuxième chose d'attribution, où là on va invoquer un certain nombre de causalités. Souvent les deux choses sont mélangées. On dit, dans les titres de journaux que tu as montré, on voyait très bien qu'au début on voyait quelque chose, c'était plutôt de la détection, et puis après le mot réchauffement climatique arrivait, paf, on passait à l'attribution. Alors bien évidemment, on peut se demander, si on se projette... en 2050 dans un tribunal avec des gens qui iraient déposer plainte et qui demanderaient c'est quoi la forme de la preuve dans une vision probabiliste des choses pour dire voilà, je veux poursuivre les gens qui ont émis les gaz à effet de serre. Qu'est-ce qui serait recevable devant ce tribunal en termes de preuves? Et c'est toute la question de la preuve scientifique et de sa valeur. Réflexion sur ces idées.
Non, mais c'est absolument central. Là, j'ai pas zoomé sur la question de la preuve, mais bon, vous trouverez des éléments dans les textes en ligne, parce que je m'étais intéressé justement aux différentes modalités de la preuve. Beaucoup d'acteurs ont besoin de ce que j'ai appelé la tangibilité, c'est-à-dire quelque chose qui recoupe l'expérience et qui effectivement devient difficile à défaire. Il y a ceux qui ont besoin de réplication en laboratoire, etc., etc., et ceux qui vont plus s'appuyer sur l'impossibilité, ça les matheux connaissent bien, de démontrer que ça ne peut pas avoir lieu, que le lien ne peut pas être lié au hasard, enfin voilà, donc par le raisonnement. Et en fait, là, cette question-là, elle n'est pas nouvelle, c'est-à-dire que sur toute la toxicologie, par exemple, il y a un hiatus entre, par exemple, on va dire, d'ailleurs dans le risk assessment d'une manière générale, on va dire, il y aura une augmentation de 100 cancers de plus par million d'habitants. Après, dans les années 70, ça passait dans le régime de l'acceptabilité du risque. C'est-à-dire, bon, 100 cancers de plus, on peut mettre une centrale nucléaire, bon, sur un million d'habitants, c'est noyé dans la masse, etc. Et évidemment, selon l'évolution du dossier de la défiance par rapport à une technologie et des précédents, c'est-à-dire de la mesure, par exemple, de points chauds, etc., etc., et de la multiplication de pathologies qui sortent quand même un peu du bruit de fond, on va effectivement passer vers la possibilité d'une attribution. Mais ça reste qu'une possibilité. Aujourd'hui encore, quelqu'un qui se plaint d'un mésothélium, enfin qui se plaint, excusez-moi, qui souffre d'un mésothélium et qui veut se faire indemniser sur les fonds amiantes qu'on connaît, etc., il n'est pas évident, forcément, qu'il y ait un lien direct. S'il va falloir montrer l'exposition, ça veut dire une traçabilité de toutes les expositions antérieures et en fait une incertitude forte, puisque son voisin d'atelier n'a pas développé de mésothélium. C'est classique, c'est pareil pour les fumeurs. Donc on retrouve d'ailleurs des tensions sur la preuve qui sont omniprésentes. Alors, dans le climat, ce qui va changer, c'est qu'on voit bien qu'on est dans une situation où tout le monde réchauffe. Donc le procès, il est fait à qui? Enfin, donc le problème, c'est qui va incarner finalement le vilain, celui qui est responsable. Vous voyez que sur l'amiante, les Italiens ont mis quand même 15 ans, mais ils ont organisé les procès. À Turin, ça a eu lieu. Et il y a eu, je crois qu'il y avait 1400 parties civiles. Et ils ont été chercher les deux industriels milliardaires en Suisse et en Belgique. Ils les ont, et le jugement a eu lieu. Alors, c'est une première instance, c'est une première mondiale aussi. Mais là, on a un dossier qui est constitué avec une industrie qui a prolongé l'exposition de travailleurs en toute connaissance de cause. Il n'y avait pratiquement plus de, il y a plus de discussion, en plus sur le cas de mésothélium, c'est clair, et puis toutes les maladies autour de la merde. Donc, dans le cas du climat ou de la biodiversité, ou des choses comme ça, ce qui va beaucoup monter, à mon avis, c'est plutôt le procès en injustice, c'est-à-dire la justice environnementale telle que les Américains l'ont beaucoup portée au début, dans les années 80-90, qui aujourd'hui est beaucoup reprise dans les pays du Sud. Ça va plutôt être le mauvais traitement générés sur des communautés, et là on est dans des niveaux de preuve, je dirais, qui sont de l'ordre de l'expérience collective partagée, c'est-à-dire qu'on ne va pas aller regarder en détail, on va avoir une espèce de conception globale du dommage, c'est-à-dire une zone entière a été abandonnée, et dans le cas de la faute sur mer, ils ne disent pas c'est la faute du changement climatique, ils n'attribuent pas, ils disent simplement on sait que il faut prendre des mesures par rapport à la montée des eaux d'une manière générale en situation même d'incertitude face au changement climatique, vu la manière dont ont été attribuées, mise en place la zone côtière de la faute sur mer, il y a des fautes évidentes d'absence de précaution et de prévention. On peut reprendre Katrina aussi. On voit bien que sur chaque événement, il y a quand même, on remonte en amont sur la manière dont ont été définies les politiques d'urbanisation en l'occurrence, ou de construction, d'occupation des sols, sur les réseaux d'eau, enfin, toutes sortes de choses. Et c'est vrai que la responsabilité ne va pas tellement porter sur la preuve de la relation causale, mais sur la possibilisation, sachant que des événements de ce type sont désormais plus fréquents, et c'était une discussion que vous avez, les cycles vont être plus courts, forcément les politiques publiques vont être mises à l'épreuve de cet engagement. Donc c'est vrai que la preuve ne sera pas de l'ordre du tangible, direct, du lien direct, comme dans le cas de Creutzfeldt-Jakob, où on pouvait, la nouvelle variante, on pouvait éventuellement faire la relation entre avoir mangé des burgers et le prion, etc. mais globalement, plutôt sur le fait d'avoir créé une situation. La mise en danger, finalement, sert d'appui sans nécessiter l'apport d'une preuve, puisque ce n'est qu'une mise en danger. Mais c'est très riche comme problème.
On prend encore deux questions.
Il y en a forcément d'autres. Ah ouais, bien.
Oui, donc je reviens sur ça. Est-ce qu'on pourrait mettre en évidence le fait que des logiques d'adaptation seraient... Enfin, il y aurait un changement important dans l'amplitude ou même le déclenchement de mesures d'adaptation quand on passe d'un état des lieux où on en est à la détection et quand on bascule dans l'attribution. Est-ce qu'on pourrait arriver à mettre ce changement-là en évidence?
Ben, je pense que oui, sur les zones côtières en particulier, ça c'est très net. Et dans plein de secteurs où il va y avoir des stress particuliers sur des zones, que ce soit dans la biodiversité, ça se voit déjà. Donc, à mon avis, le problème, c'est qui porte ces questions-là. C'est-à-dire, est-ce que c'est très en amont porté par des ONG? Est-ce que les dispositifs publics, les collectivités territoriales les ont saisis et ont développé des programmes suffisamment forts et continus pour qu'on puisse voir des différentiels? Et sinon, effectivement, on risque d'avoir des crashs avec des surgissements de victimes et toute la colère et la tension que ça accompagne. Donc effectivement, la quête de justice va changer selon que les dispositifs d'adaptation auront anticipé ou non le fait de l'attribution, effectivement. C'est-à-dire qu'on n'est plus, enfin, dans plein de secteurs, on n'est plus dans la détection, on est véritablement dans la préparation, précisément. Donc cette idée de preparedness est aussi liée à ça, c'est-à-dire de pouvoir couvrir les responsabilités éventuelles du fait que maintenant, l'inéluctable ou l'inattendu, ça peut être l'un ou l'autre, sont devant nous. Donc on a effectivement cette espèce de course, alors qui a sa limite, hein, puisqu'on voit bien quand il s'agit par exemple de surveillance des personnes, si on prend le bioterrorisme ou le terrorisme de manière générale, qui rentre aujourd'hui dans cette espèce de notion de sécurité globale et de couverture générale sur les risques, évidemment, ça grignote sérieusement sur d'autres fondamentaux. C'est pas l'amendement qui a été signalé tout à l'heure, là, c'est la liberté, c'est des libertés fondamentales, ou les surveillances de population, où on va se retrouver dans des situations de tension entre deux formes, hein, de représentation politique, une forme plus ouverte de la démocratie, et le climat, me semble-t-il, doit plutôt aller vers celle-là. Et donc justement, permettre aux acteurs de monter en généralité quand ils sont dans l'attribution, plutôt que de viser des coupables immédiats, même si évidemment, comme dans les pollutions industrielles, il y a une longue histoire maintenant, enfin, l'histoire de l'environnement se développe beaucoup, on voit qu'effectivement les bagarres pour obtenir d'un industriel qui retire quelque chose, qui baisse ses rejets, etc., c'est aussi important, puisque ça passe aussi beaucoup par le tribunal. Mais la question, c'est de la monter en généralité, et je pense que le climat permet en fait une mobilisation générale que d'autres causes permettent moins. Et à mon avis, c'est à ce niveau-là que les politiques d'adaptation sont des passeurs entre montée en généralité et prise en compte, en fait, des spécificités d'une localité, d'un milieu, d'un territoire.
Sylvie Jousson, Jessica, j'avais une question sur ces tensions qu'il peut y avoir entre, d'une part, on est dans une situation où il y a, avec le flot d'éléments montés par les climato-sceptiques, il y a quand même une certaine influence de ce côté-là, même si c'est moins marqué en France qu'aux États-Unis. Et de l'autre côté, en même temps, on applique, comme tu le montrais, des plans climat, les collectivités. Il y a tout un côté normatif qui se met en place. Et il me semble que ça pourrait être intéressant de voir un peu les acteurs, comment ils s'en sortent entre eux. C'est des tensions, c'est antagoniste, en fait, entre les deux démarches. Et si, du coup, ça se ressent dans ce qui ressort, est-ce qu'on voit du coup des gens qui deviennent plus perplexes? Enfin, je veux dire, comment est-ce qu'un peu ces deux tendances qui sont en fait en même temps, pratiquement, comment elles cohabitent?
Alors, bon, je ne sais pas si elles sont vraiment en même temps, ce n'est pas les mêmes arènes. C'est-à-dire qu'il faut faire gaffe, l'impact des médias, il est évident sur plein de choses, et en même temps, il est à relativiser. En tant que sociologue, l'avantage, c'est qu'on fait beaucoup de terrain, on discute avec les gens et on est obligé de constater quand même une intelligence pratique considérable. Même de Bourdieu, enfin tout ce que vous voulez, toutes les sociologies montrent quand même que les acteurs, ils raisonnent, ils ont un sens critique. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils vont prendre la parole publiquement, c'est autre chose. C'est-à-dire, plein de gens ne posent pas de questions, mais n'en pensent pas moins. Il y a cette espèce de fond. Et donc, là, à ce niveau-là, mesurer les impacts, c'est très compliqué. Donc, pour ça, il faut regarder quand il y a des événements, quand il y a des... des mobilisations, comment les acteurs s'emparent de ça ou non. Et c'est à ce niveau-là déjà qu'on peut... quand il y a une polémique entre Courtillot ou un bouquin qui sort sur le mythe climatique, pour ne citer que lui, Benoît Ritot, que j'ai dû lire, parce que bon, en tant que sociologue, il faut lire tous les acteurs. Alors bon, c'est le problème, là on trouve le problème des pseudosciences, d'une espèce de vision qui cherche, voilà, c'est la guerre des pseudosciences, de détecter une pseudoscience et de revenir aux prémices de cette science, de dire elle est fausse de bout en bout, et donc c'est une construction de scientifiques écolos, d'une discipline qui a voulu se légitimer par rapport à d'autres, vous voyez le genre de procès, etc. Ça, pour les gens ordinaires, je veux dire, pour les gens qui sont dans l'action, etc., la portée est quand même assez faible. Puisque bon, ce qui les intéresse, c'est les dispositifs pratiques, les technologies, les ouvertures, les prises, pour employer un jargon qu'on a beaucoup développé dans notre sociologie, que ça offre. Donc là, il y a une dimension pragmatique qui l'emporte. Et il me semble que... C'est pour ça qu'aux États-Unis, bon, si on prend la Californie, moi je vais souvent là-bas, il y a énormément d'acteurs qui portent quand même les questions climatiques localement et autour des communautés. Là, j'ai un très beau rapport de l'EPA californienne là, qui s'appelle Cumulative Impacts, où justement ils essayent de voir déjà comment se croisent des sources de pollution sur les mêmes populations, le diesel, les poids lourds, les pesticides, mauvais état de l'eau, etc., etc. Et ils rajoutent un modèle du genre, et si le changement climatique s'accélère, ils vont avoir en plus du stress, etc. Donc on voit bien que ces acteurs-là, Cal EPA, c'est un peu le... C'est les avant-coureurs, quoi. Évidemment, quand on arrive à Washington, ça a changé d'allure, quoi. On n'a pas les mêmes rapports de force. Donc on voit bien que les problèmes d'échelle, je pense qu'on ne peut plus raisonner vraiment sérieusement si on n'a pas les choses en processus, c'est-à-dire de ne pas les fixer, mais de regarder d'où elles viennent, où elles vont, comment les acteurs font bouger les lignes, et en même temps de regarder à différentes échelles en même temps. Sinon, on porte des diagnostics, je trouve, un peu caricaturaux, où on n'arrive pas à conclure, quoi, parce que finalement, c'est tout en même temps, quoi. Donc si on prend les processus et qu'on se place dans les bonnes échelles, le climato-scepticisme n'a pas de prise. C'est ce que je dirais. Là, je ne le constate pas. Et j'espère avoir raison, mais bon. Par contre, effectivement, dans les échelles plus politiques, où il y a de la rhétorique embarquée, où il s'agit de faire de l'intox massive, mais il n'y a pas que le climato-scepticisme, il y a plein d'autres trucs qui passent. Et parfois ça marche, parfois ça ne marche plus. Prenez l'exemple de la sécurité dans la dernière campagne électorale. Pourtant, il y a eu des événements qui s'y prêtaient quand même fortement. Ce n'est pas ça qui intéressait visiblement les électeurs. C'est-à-dire que ce n'était pas suffisant, ou l'histoire de viande halal ou pas, enfin, tout ce que vous voulez, il y a des trucs qui m'en passent pas. Donc il y a bien eu remodelage, reconfiguration des esprits qui sont pris dans des processus de réalité. Et ça, pour moi, c'est un critère central. Quelles sont les épreuves de réalité auxquelles les personnes tiennent vraiment, c'est-à-dire là où ça va se passer, quoi. Mais merci. C'est des bonnes questions, hein. Merci. Oui,
merci.
Désolé d'avoir été un peu long.
Voilà, on y prendra sûrement.
On y reviendra.
Merci. Donc, Philippe Boud et...